Panneau 8, Sainte Orosia 1, sa légende. Orosia, la bonne rose ou la bonne rosée selon certains, est le nom que prit Dobroslava, la jeune princesse de Bohême, lorsqu'elle se convertit au christianisme en l'an 872, selon la légende qui relate sa vie. Cette même légende raconte que la jeune princesse fut promise en mariage à Fortun, fils des comtes d'Aragon, dans les lointaines terres pyrénéennes, et la cérémonie s'est célébrée par procuration. Accompagnée d'une petite suite, la jeune Eurosia, alors âgée d'à peine 16 ans, traversa la moitié de l'Europe pour rejoindre son époux dans ce petit territoire montagneux qui allait être son foyer pour le restant de ses jours. Elle était loin de se douter que son séjour sur ces terres serait si court, et que, en plus d'y incarner une figure de martyr, elle laisserait parmi les siens le souvenir impérissable de ses miracles. C'était le mois d'août, et il fallait se dépêcher de traverser les Pyrénées pour ne pas avoir à faire face à de graves périls hivernaux. Aben Lupo appartenait à la famille des Banu Qasi de Saragosse, et cette année-là, il parcourut les territoires chrétiens pour les piller et les soumettre, acquérant ainsi le prestige nécessaire pour devenir l'un des plus grands seigneurs du pouvoir musulman dans le nord d'Al-Andalus. C'est en octobre qu'il apprend la nouvelle de la petite délégation qui amène la jeune Orosia en ses terres. Il devait se dépêcher, car le butin était déjà sur les terres du Galiego et du Bassa, à la recherche du jeune Fortune. La petite suite de Slaves et d'Aragonais qui se reposaient dans le village de Yebra, alertée par le retard de l'émissaire et consciente de la présence des morts dans la région, décida de fuir par les montagnes les plus proches. La persécution obligea les chrétiens à accélérer leur marche, mais en vain. Au lever du soleil, Aben Lupo les tenait encerclés par ces montagnes et exigea que la jeune femme renonce à la foi, à sa foi chrétienne et à son mari Fortun Garces. Ce serait un beau présent pour son émir de Huesca. Au bout d'un certain temps, et face au refus obstiné d'Orosia d'accéder à ses requêtes, le siège se transforma en attaque. Et de la petite suite chrétienne, seul Orosia et un tout petit groupe purent s'échapper. Elle était accompagnée des frères Acisclo et Cornelius. Le premier était évêque et le second, chef de l'expédition, oncle de la jeune femme, tous deux sanctifiés par la suite. Enfin, ils atteignaient le sommet de la montagne, la grande prairie qui couronnait la pente raide. Face à la soif dont il souffrait, une source d'eau apparut miraculeusement au beau milieu de l'endroit pour pouvoir l'étancher. Mais c'est à ce même endroit qu'eut lieu la terrible scène finale. Les poursuivants les rattrapèrent. La jeune Rosia refusa encore et toujours d'accéder à la volonté du chef musulman qui, pris de colère, ordonna l'assaut. L'attaque féroce de Lupo contre Cornelius lui fit accidentellement trancher net la main d'Orosia, ce qui ne fit qu'attiser la rage de l'assaillant qui abattit sans pitié le courageux chef bohémien. Sans attendre, et voyant tous ses espoirs frustrés, il fit couper l'autre main de la jeune Orosia, ainsi que sa tête et ses pieds. C'est ainsi que peu de temps après avoir retrouvé les montagnes qui auraient dû être sa demeure, Orosia perdit la vie dans une histoire tragique qui laissera une trace indélébile pendant des siècles. 200 ans passèrent sans que l'on ait plus de nouvelles de la jeune princesse, et bien que le souvenir de son martyr soit resté gravé dans la mémoire des habitants du petit comté aragonais, sa dépouille reposait là, quelque part, oubliée dans les montagnes et les cols du village de Yebra, dans la Bassa. Après toutes ces années, le jeune Guilien, berger du village de Guasilio, se trouvait sur ces hauteurs avec son bétail au tout début de l'été. Le 25 juin, comme le relatent les légendes, alors qu'il faisait paître son troupeau sur la haute plaine qui surplombe la rivière basse, un miracle se produisit. Une voix semblable à celle d'un ange, émanant d'une lumière éclatante, lui montra des dépouilles mortelles qui se trouvaient à côté de la fontaine que l'on disait miraculeuse. La voix lui indiqua qu'il s'agissait de la jeune princesse Orosia et qu'il fallait les sortir de l'oubli. Guillaume, suivant son ordre, en fit un ballot qu'il chargea dans sa besace. En redescendant à Yèvres, il déposa dans son église une partie importante de ses reliques, la tête de la sainte. Il se prépara à porter le reste du corps à Jaca, capitale du royaume naissant d'Aragon, et siège d'une importante cathédrale, seul lieu capable de garder les précieuses reliques. Sa marche vers cette ville fut émaillée de mystérieux prodiges qui étonnèrent les habitants des villages traversés. Les cloches sonnaient toutes seules, les fleurs s'ouvraient sur son passage, les sources taries jaillissaient à nouveau, les malades étaient guéris par l'odeur des reliques. Selon la tradition, il s'arrêta avant d'arriver à destination dans le petit village de Guassa. De là, avec la suite qui l'avait été préparée, il marcha jusqu'au mur de Jaca. Ce qui s'est passé par la suite échappe à tout récit historique, car tout ce qui a précédé est enveloppé dans une nébuleuse qui ne nous permet de voir que de petites traces de ce qui s'est réellement passé. L'imagination des gens, l'histoire de sa vie, les nombreux miracles qu'on lui attribuait, la dévotion qu'on lui portait. Tout cela fit d'Orosia une figure mythique, une véritable reine de la montagne, patronne de Jaca et de tout le diocèse. La richesse des traditions, des coutumes et des rites que son culte a créés au fil des siècles et qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui a conduit le gouvernement d'Aragon à les déclarer patrimoine culturel immatériel en 2017.